I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Aujourd'hui, on va parler du Nintendo Indie World. On a aussi Embracer qui se divise en trois. Et le succès peut-être un peu surprenant de Fallout à tous les niveaux. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu et j'envoie le jingle d'une main experte. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, nous sommes en avril, 2024, c'est l'épisode numéro 344 du rendez-vous jeu. Vous avez vu à quel point c'est passé sans aucun problème, le fait d'avoir décalé un tout petit peu pour mettre le jingle, parce que je ne le trouvais pas, j'avais pas la souris dessus. Manque de professionnalisme après 15 ans, c'est incroyable. Celui qui est plein de professionnalisme et qui compense pour moi, c'est Kassim. Bonjour Kassim, comment vas-tu ?
Très bien, j'ai du professionnalisme, mais débordant, tu vois, à ras-bord, je n'ai que à en partager là, comme ça, dans cette émission.
Tu as du professionnalisme à en revendre, c'est comme ça qu'on dit généralement.
Oui, et c'est d'ailleurs le signe d'un grand professionnel de connaître bien ses expressions.
Exactement. On remercie un immense professionnel, c'est Fabrice Canella, qui est si professionnel qu'il a réussi à rejoindre le Patreon du rendez-vous jeu. Un grand, grand merci à lui. Et merci également à Lancelot Davizard et Steph Sinalco, les producteurs de cet épisode. Si vous souhaitez rejoindre cette famille, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeux. Même si en ce moment, là, tout de suite, je ne sais pas si ça s'entend, j'ai le nez un petit peu bouché, mon fils est malade, ma fille qui est en vadrouille à Helsinki avec ma femme est malade aussi. Donc je ne sais pas si c'est pile le bon moment là tout de suite à l'instant pour rejoindre la famille. Vous voyez les câlins, c'est un petit peu avec les nez qui coulent. Et puis si l'émission est interrompue par un adorable enfant qui vient dire « Papa, il y a un problème avec l'iPad », ça sera pour cette raison, c'est parce qu'il est à la maison. Donc évidemment, tout est simplifié, tout est facile, n'est-ce pas Kassim ?
Mais ça va parfaitement bien se passer.
Merci d'ailleurs à Kassim d'avoir géré en partie le programme de cet épisode. Donc je me référerai à toi pour certains sujets que tu as traités, notamment sur Frandroid. Donc tu es un expert sur ces sujets-là et je te laisserai les détailler.
Alors certes, mais c'est qu'en partie que j'ai géré le conducteur. Tu ne m'as pas laissé par exemple parler... Et que de Final Fantasy XIV et de Eiyuden comme sujet principal.
J'avais anticipé. Non, Eiyuden, je suis déçu, Kassim. Oui, je comprends sais. Pas ce qui
mais
se passe.
Ne n'en dis pas plus. N'en dis pas plus. On en parlera dans l'épisode. Mais très oui, bien. Je sais.
Oui, mais oui, voilà. Eh ben, écoutez, je justement, comprends. On lance les news. Non, c'est pas celui-là. C'est le mauvais. Stop. On lance les news. Avec, d'abord, première info, c'est toujours un événement quand Nintendo fait un direct. Et là, évidemment, c'était un événement intergalactique, incommensurable, puisque Nintendo a fait un Indie World. Et il y a deux semaines, il y avait le Triple I Initiative, sur lequel j'avais été un petit peu critique. Comment dire ? Comment ne pas être négatif, Kassim ? Peut-être que toi, tu sauras me guider. Et me dire comment faire pour ne pas trop critiquer ces efforts de développeurs qui sont, somme toute, pleins de bonne volonté, Nintendo qui les met en avant.
Oui. C'est plutôt bien d'avoir des petits événements. Alors déjà, le nom de l'événement dit tout de suite le programme de l'événement, c'est-à-dire que ça ne nous vend pas une super conférence, ça nous vend un showcase indie.
Effectivement, ce n'est pas une super conférence, on est d'accord.
Non, mais dans le sens, ça ne nous vend pas le Nintendo Direct de tous les Nintendo Direct, c'est pas un big, on sait que ce ne sera pas un big event. D'ailleurs, par exemple, ça fait partie des éléments qui fait que ça me fait sourire, c'est plus devenu une blague qu'autre chose, les gens le font sérieusement, mais d'imaginer que Silsong, par exemple, pourrait être dans Indie World, ça fait sourire, c'est plutôt le calibre du jeu fait qu'il sera plutôt dans un Nintendo Direct ou une grosse conférence PlayStation, Xbox, voilà.
D'ailleurs, même plus les Nindies, ça y est, ils ont abandonné ce nom aux grandes dames de tous les commentateurs, hein. Maintenant c'est Indie World et pas Nindies, malheureusement, mais... Oui,
mais donc, du coup, c'est dédié à de l'indé. Et alors, je sais où tu vas nous emmener, donc je vais le dire tout de suite. Bah oui, c'est une variété de jeux qui, ont encore de l'espoir pour le monde, qui essaye de faire des choses différemment, des choses qui essayent de te faire te sentir bien, qui voilà, qui sont mignonnes,
mais
qui
c'est
ont des graphiques.
C'est pas que le. Tu vois, tu dis justement, je vais répondre. Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, effectivement, bon, bah, la conférence, c'était quoi ? C'était 30 minutes, il n'y avait pas une ambition folle, mais c'était effectivement des tout petits jeux indés, et c'est bien qu'ils aient cette mise en avant, hein, parce que c'est hyper difficile d'avoir une visibilité quand il y a des centaines de jeux qui sortent chaque mois. Mais quand tu dis qu'ils essayent de faire les choses différemment, ça, c'est un facteur que j'ai remarqué et qui commence à m'irriter particulièrement. C'est que, autant il y a... tu sais, les gens respectables du YouTube game français, ils sont un petit peu lassés de voir des triple A qui se ressemblent tous et qui sont tous des open world post-apocalyptiques en vue à la troisième personne et oh, encore un truc comme ça, encore des arbres de talent, encore des tours à débloquer, machin. Eh ben, je comprends le sentiment, mais moi, ça me fait un petit peu la même chose avec les indés, avec leur jeu et avec leur présentation. J'en peux plus des trois développeurs slovaco-brésiliens sur leur canapé, dans leur salon, qui disent « Bonjour, on est... » Je ne vais pas faire l'accent slovaque parce que ça serait encore plus ridicule, mais on est une petite équipe de développeurs, on est tout mignon. Et regardez notre hamster domestique Lulu, vous voyez comme il est mignon. Eh bien, on fait un jeu où il faut collectionner des peluches et il est en pixel art cel-shaded. J'espère que ça vous plaira. Bye bye. Et mais t'en peux plus, quoi. Ils sont tous identiques dans leur présentation, dans leur ambiance, dans les thèmes du jeu. C'est quand on dit les gros jeux se ressemblent tous, je peux le comprendre, mais les indés, c'est de la photocopie de photocopie. Et il y en a qui tentent des trucs un petit peu de temps en temps, mais d'une manière générale, il y a autant d'indés qui font des trucs intéressants que de triple A ou de double A qui font des trucs intéressants. Il y a des jeux intéressants parfois, des jeux pas intéressants, mais les indés, il y en a tellement, ils sont tous dans le même esprit, et ça se comprend, ça se justifie, ça s'explique, tout ce que tu veux. Moi, c'est l'overdose là, je peux plus.
Et non, mais je suis pas.
Est-ce que je suis sans cœur ouais. Et est-ce
non,
que je suis,
ouais,
tu vois
Je pense que tu vas un peu loin. En fait, je suis d'accord sur la parodie un peu que tu fais de la présentation de jeux indés. Ça, je suis assez d'accord. Depuis le Covid, c'est vraiment prégnant le côté les développeurs chez eux avec une caméra un peu mal branlée, avec le chat qui vient déranger la présentation, etc. Et c'est tout mignon, etc. Ça, je suis assez d'accord avec toi. En revanche, sur le côté que tous les jeux ont un peu la même ambiance, etc., là, je ne peux pas être d'accord. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, là, et en plus, je trouve qu'on est sorti justement de ce tunnel un peu de jeux. Il y a eu vraiment l'ère des Animal Crossing-like, quoi. À chaque présentation de jeux indé.
Et là, il y en avait deux ou trois, c'est vrai. Sur les 15 présents.
Mais je ne peux pas vous laisser dire ça.
Dis-nous ceux qui t'ont marqué, puisque moi je suis négatif, mais dis-nous ce qui a été notable.
Là tu vas me mettre dans l'embarras. C'est plutôt Stitch qui m'a marqué dans les trucs un peu cool que j'ai retenu, qui est un jeu qui vient de Apple Arcade à la base, qui est un jeu de on va dire un puzzle game slash. Puzzle game slash laine mignonne Wooling.
C'est du tricot ou du truc
ouais
comme
c'est ça,
ça. Et ouais
mais avec une base de, et j'ai oublié le type de jeu que c'est les puzzle game où tu dois, c'est un
oui les, genre des sudoku ou des picross,
oui voilà un
de
peu
trucs,
des voilà exactement picross sudoku des mineurs, ce genre de choses où tu dois deviner à quoi correspondent les cases. En faisant des opérations logiques.
C'est le seul que t'as retenu?
C'est pas le indie world le plus marquant de tous les temps.
On est d'accord.
Pour moi,
okay,
dans mes goûts à moi. Mais bon, sera. Après, on sait qu'il y a d'autres. Il y a d'autres. il y a d'autres, comment dire, d'autres conférences. Et moi, j'avais été plus séduit par le Triple I Initiative pour le coup. J'avais été moins critique que toi sur le Triple I qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, je comprends.
Bon, est-ce qu'on peut s'accorder à dire c'est pas le Indie World le plus fou de l'année?
Non. Non, non, tu sais, on est en fin de vie de la console. C'est plus le moment où il va y avoir les trucs les plus incroyables. Il y a aussi une partie des jeux, oui, mais il y a une partie des jeux, je pense, qui commence à viser.
Je comprends, ouais. Je dirais que il y a aussi l'aspect. Ça, il se noie dans la masse. Alors oui, c'est pas les indies les plus marquants, on est d'accord, mais il se noie dans la masse aussi, quoi. Il y en a tellement, on en parlait il y a deux semaines avec machin. C'est infernal, quoi. Enfin, c'est infernal. Le truc, c'est que on ne peut pas, entre guillemets, être excité par tous ces trucs tout le temps parce qu'il y en a trop, mais en même temps, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire c'est bien qu'il y ait cette mise en avant des développeurs par des gros éditeurs et des gros constructeurs parce que c'est tellement difficile, comme je le disais au début. Donc, c'est pas genre, il faut plus en faire. Si tu me dis... peut-être que ils sont pas tous pour moi. C'est peut-être ça, la conclusion. Ils sont pas tous pour moi.
En fait, je pense que la réponse par rapport à ton propos, en fait, j'ai une meilleure formulation, c'est le fait que je pense que les jeux sont toujours aussi divers pour le coup et n'ont jamais été aussi divers. Pour le coup, on est sorti du tout pixel art ou du tout farm simulator justement, et on a vraiment des propositions différentes pour le coup. Sauf que là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est le fait que y a un nombre improbable de jeux indés et de jeux en général, on le dit tout le temps, et que même avec cette mise en avant de la part de Nintendo, ça reste trop, et on a encore du mal à trouver les bons jeux qui vont nous plaire. Et peut-être que la sélection, la curation de la part de Nintendo a peut-être pas réussi à faire sortir les jeux qui, nous, à toi et à moi en tout cas, nous parlent le plus. Voilà.
Oui, on est d'accord. Bon, il y a ça, il y a un autre truc quand même, tu vois, pour tout ce que je dis, il y a un autre truc que je retiens, peut-être pour des mauvaises raisons, c'est, comment il s'appelle ? Yars Rising. Tu vois ce que c'est, Yars Rising ? Je ne sais pas si tu l'as vu.
Laisse-moi le retrouver, mais non. C'est lequel déjà ?
Yars Rising, en fait, c'est un jeu qui n'a pas l'air super intéressant, mais... qui est dans la licence de Yars Revenge. Et je comprends que tu ne saches pas de quoi il s'agit, parce que c'est un jeu qui était sur Atari VCS 2600. Donc, ça ne date pas d'hier, si on peut le dire comme ça.
En plus, je viens d'une famille Amiga.
Non, mais mon pauvre, Atari VCS 2600, c'est bien avant.
Oui, je sais.
L'Atari VCS 2600, c'était la console maison de tout le monde, et après ça s'est scindé pour ceux qui allaient sur ordinateur entre Amiga et Atari potentiellement. Mais du coup, Yars Revenge, c'est une licence qui rappellera je vais pas dire honorable, mais qui rappellera des choses à des gens. Et donc, c'est marrant de la voir revenir, sauf qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec Yars Revenge, qui était un shoot'em up en 3 pixels. C'est une sorte de, truc en vue de côté, platformer.
Ouais, c'est un Metroidvania.
Ouais, une sorte de Metroidvania, voilà, qui n'a même pas l'air super beau, c'est WayForward qui fait ça. Mais surtout, ce que ça marque pour moi, c'est le fait que Atari se mette à faire des choses un petit peu plus raisonnables. Voilà, je vais le dire comme ça, parce qu'Atari, pendant un moment, il s'était mis à faire, enfin, il voulait faire des hôtels, il voulait faire, je suis sûr qu'il y a eu de la crypto par moment, ce genre de choses. Et du coup, là, ils se mettent à faire des petits jeux qui prennent leur licence historique et qui sont des jeux modestes, avec des ambitions raisonnables, peut-être pour reconstruire quelque chose. Ils ont d'ailleurs ressuscité Infogram, pour les anciens aussi qui s'en souviendraient. C'était un label... Ouais, ça te dit quelque chose.
Non, mais oui, là, ça, oui, ça, puis ouais. Alors, ça rappelle pas forcément non plus les meilleures heures de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, il y a des trucs très cool chez Infogram, mais voilà.
Ça s'est fini de manière compliquée. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont l'air d'avoir recentré un petit peu leurs ambitions chez Atari, ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà, c'était pour dire quelque chose de positif. Deuxième news, et là, par contre, c'est un petit peu plus notable, c'est la décision de Embracer Group, qui a fait beaucoup parler ces dernières années, de se diviser en trois sociétés différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe au sein de l'ogre européen ou suédois ?
Alors Embracer, pour resituer, c'est le nom dont aucun joueur n'a jamais entendu parler, sauf si vous suivez explicitement l'industrie du jeu vidéo et le rendez-vous jeu. Mais du coup, c'est un nom voilà, que vous retrouvez sur aucune jaquette de jeu, aucun store. Mais c'est un énorme groupe européen qui a racheté au cours des dernières années beaucoup d'éditeurs, de studios. À la base, c'était THQ Nordic, c'est devenu Embracer après, et ils ont racheté plein de trucs. Notamment la branche occidentale de Square Enix, notamment une partie des droits des œuvres de Tolkien, et notamment Asmodée, donc éditeur de jeux de plateau français. Donc c'est devenu vraiment une sorte d'ogre voilà, européen qui comptait plusieurs dizaines de milliers d'employés, plusieurs dizaines de studios. C'était sans doute un des plus gros groupes de jeux vidéo au monde, en fait, en vrai. Depuis le début de ce qu'on appelle la crise du jeu vidéo, ou en tout cas des vagues de licenciements qui s'enchaînent, Embracer fait partie de ces acteurs qui ont le plus fait de licenciements. Et c'est notamment suite à l'échec avec un contrat avec l'investissement saoudien, c'était l'année dernière, et à partir de là, en gros, ça a commencé à vraiment aller de mal en pire, à vouloir se restructurer. Et là, c'est vraiment l'étape ultime presque, puisque du coup, Embracer en soi va disparaître en tant que tel pour se scinder en trois groupes. En gros, pour la faire courte, il va y avoir le groupe Asmodée tout seul dans son coin qui reprend son indépendance. Et après, côté jeux vidéo, ça va se diviser en deux éléments. D'un côté, alors c'est des noms de code, enfin c'est des noms temporaires, mais le nom a fait un peu sourire tout le monde parce que voilà. Mais d'un côté, il y a Coffee Stain and Friends, donc autour de l'éditeur Coffee Stain et du développeur Coffee Stain, qui va se concentrer sur les jeux indés, AA, les jeux services free-to-play, les jeux mobiles, vraiment voilà, tous les jeux, on va dire, à faible budget. Et de l'autre côté, il y a Middle-Earth Enterprises and Friends, toujours les amis, avec, qui va regrouper toutes les activités des studios AAA. Donc justement, l'ancienne branche occidentale de Square Enix, typiquement, va se retrouver dans Middle-Earth Enterprises and Friends. Il y a aussi For A Games, donc les développeurs de Metro, par exemple, qui vont se retrouver dans ce dernier groupe. Et donc voilà, il va y avoir cette séparation-là. Alors ça va prendre une bonne année, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça va vraiment devenir trois entreprises complètement différentes, avec chacune leur cours en bourse, chacune leurs revenus, leurs bénéfices, etc. Vraiment trois entreprises différentes. Hein. Ce n'est pas une sorte de restructuration comme a pu le faire EA Games il n'y a pas longtemps, en séparant son activité sport et son activité jeux vidéo, mais en gardant le groupe EA Games ensemble. C'est vraiment trois entreprises séparées qui vont partager de l'actionnariat et vont partager probablement Lars Winger Force dont on va parler, qui est le CEO d'Embracer, va rester actionnaire des trois groupes. Mais au-delà de ça, en soi, théoriquement, c'est trois concurrents quoi, désormais.
Enfin, ce sera c'est-à-dire que si tu as une action Embracer, tu vas avoir, enfin je schématise, mais une action dans chacune des trois sociétés. Tu pourras revendre à loisir tes actions dans l'une ou l'autre, ce que ça veut dire à peu près. Et puis bien sûr, il y a des gens qui vont garder des actions dans les trois. Et j'imagine que Lars va garder une main dans chacune de ces sociétés. Mais c'était... Je pense que beaucoup de gens y voient là un résultat presque... Enfin, il y a une sorte de Schadenfreude, tu sais, de plaisir de voir le malheur de quelqu'un d'autre, parce que beaucoup critiquaient la stratégie de Embracer qui semblait ne pas en être une, en fait. Le fait en soi de racheter plein de studios, alors ils en faisaient beaucoup, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on avait l'impression qu'ils le faisaient sans but précis, sans stratégie, sans objectif. C'est juste, on rachète, et à un moment, ça casse. Effectivement, le fait d'avoir eu cet investissement prévu de 2 milliards quand même du Savvy Group saoudien qui s'est finalement pas fait, ça les a mis bien dans la panade. Le rachat d'Asmodée, visiblement, les a vraiment plombés. C'était l'année dernière ou l'année d'avant
Il y a 2 ans, il me semble.
Il y a 2 ans. Mais oui, donc je crois que sur le principe, il y a beaucoup d'observateurs qui sont presque heureux de voir qu'il s'est planté, j'ai l'impression. Peut-être que je pousse un petit peu le bouchon là encore, ou que je caricature un petit peu la réaction. Mais en même temps, si je veux y voir quelque chose de positif, je dirais que il y a quand même eu une certaine ambition de Lars Wingfors, oui, comme je sais plus comment il s'appelle, de Lars. Et on peut pas systématiquement se dire ah mon Dieu, on peut rien faire contre les géants américains machin. Et quand il y a une boîte qui essaye de rentrer en concurrence, leur cracher dessus parce qu'ils rachètent trop de trucs par principe, tu vois. Maintenant, c'est sûr que il semblait pas y avoir une stratégie claire. Et beaucoup de gens annonçaient que, enfin, au minimum, on ne savait pas où ça allait, donc ça inquiétait. Ce que je dirais quand même, c'est que ce n'est pas fini non plus, l'histoire. On a tendance à voir cette news et à se dire « Ah bon, bah, ça y est, Embracer, c'est terminé. » Alors oui, Embracer, en tant qu'Embracer, est terminé. Mais Coffee Stain, d'une part, et Middle-earth, d'autre part, et leurs amis, bah, ça reste des grosses sociétés de jeux vidéo. Peut-être qu'ils auront des stratégies plus cohérentes et des feuilles de route et des sorties qui seront plus solides. Et donc, il y a encore la possibilité que ce travail d'Embracer donne quelque chose à terme, même si ça ne sera plus tout à fait la même chose, c'est sûr.
Je suis d'accord, et en même temps, il y a un revers aussi de la médaille de cette séparation qui fait que, surtout, moi, j'ai une petite inquiétude. Enfin, en même temps, donc, j'ai autant d'inquiétude à la fois pour Coffee Stain & Friends, donc le côté 1D double A, et Middle-earth Enterprises, le côté triple A, dans les deux cas, parce que, en fait, je pense que la richesse d'un groupe, c'est aussi quand même la diversité des productions, et qu'en fait, j'ai un peu peur que, du coup, sans cette cohérence, en fait, sans avoir tout dans le même panier, du coup, je me demande dans quelle mesure. Juste la partie indé, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment capables de se...
comme si de ça n'a
jamais
quoi.
Été construit... Oui, voilà, exactement. Et ça n'a jamais été construit comme ça n'a jamais été pensé comme ça. Ils ont été, du coup, regroupés au sein d'une même entreprise, finalement, par le gré des aléas, quoi, on va dire. Et du coup, je ne sais pas s'ils peuvent se tenir seuls à... Est-ce que les ventes de l'un vont réussir à contenter le développement de l'autre? Et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, justement, une culture, quelque chose, enfin, une ligne édito, un truc... intéressant, tu vois, enfin on peut se poser la question. Et pareil pour le côté triple A, juste faire des triple A sans avoir les revenus réguliers, par exemple des jeux services free to play ou des jeux mobiles, est-ce que ça va avoir du sens? Est-ce que du coup ils vont réussir à tenir? Est-ce que cette séparation va pas mener à beaucoup plus de restructuration, encore beaucoup plus de difficultés pour les équipes? Je sais pas, je sais vraiment pas, c'est-à-dire que je sais pas, c'est une hypothèse, mais c'est tout aussi bien, effectivement, comme tu le disais, ça peut aussi pas du tout être la fin du groupe, et justement, ça peut permettre à chacun de se concentrer. La façon dont ils l'expliquent aux investisseurs, c'est que en étant plus petit, chacun des trois groupes va pouvoir davantage avoir le focus sur les bons trucs, donc avoir sur les bons modèles économiques, sur les bons développements. Et peut-être que c'est le cas, et peut-être que ça va marcher. Donc, je veux pas. Sonner un peu défaitiste par avance, mais je veux aussi évoquer le risque pour des studios qui, du coup, n'étaient pas forcément conçus à l'origine pour fonctionner ensemble comme ça.
C'est sûr. Maintenant, je pense que le risque existait, et beaucoup de gens l'ont fait remarquer quand c'était un groupe géant aussi. Problème, c'est l'hétérogénéité des entreprises qui ont été ramenées ensemble en 3 ans, alors qu'elles n'avaient rien à voir. C'est effectivement le problème principal de ces groupes. Et c'était le problème... Disons que c'était le problème d'Embracer, et il reste avec Coffee Stain et Middle-earth et leurs amis. Bon, Asmodee, c'est différent, parce que c'est une boîte indépendante. C'est une boîte, une seule boîte.
Asmodee, ils avaient été rachetés pour faire des jeux de plateau qui allaient adapter des licences qui appartenaient, du coup, aux autres morceaux du groupe. Ouais. Et,
ce qui n'était pas bête, mais...
Oui, ce qui n'était pas bête, bien sûr. Mais on va voir que les logiques transmédia en ce moment, c'est peut-être cross-média, c'est peut-être justement plutôt le bon plan. Mais en l'occurrence, les projets en cours vont continuer, j'imagine. Et puis, encore une fois, les entreprises vont être séparées, mais j'imagine qu'il va y avoir toujours des relations. Enfin, tu peux être deux entreprises séparées et travailler ensemble. Mais quoi qu'il arrive, Asmodee va devoir se réorienter sur d'autres stratégies. Et je voulais juste rappeler que il y a une section de Q&A avec les investisseurs au moment où ils ont fait ces grandes annonces. Et pour aller un peu dans le sens des gens qui ont pu être critiques justement de Lars et de Embracer, ça ressort quand même beaucoup le côté l'impréparation du truc et le côté comment dire le côté qu'ils savent toujours pas vraiment parce que tu disais un peu de pas savoir des fois de pas savoir expliquer ou ne pas avoir de stratégie claire sur leur rachat. Je vous vois avec deux exemples que j'ai en tête. Il y a un investisseur qui demande tel studio, en fait, vous l'avez jamais mentionné, il se retrouve dans quoi? Et en fait, ils expliquent sur scène, on les a oubliés. Et du coup, ils vont se retrouver dans tel groupe et on avait oublié qu'on les avait. C'est genre, on avait vraiment oublié qu'on les avait, quoi. Désolé pour les développeurs, c'est pas contre vous, quoi. Et l'autre, c'est une anecdote que, alors c'est la chef de communication qui l'explique, la chef du board, pardon, qui l'expliquait, qui racontait cette anecdote, et l'anecdote, elle est un peu surréaliste, où elle explique qu'elle allait voir, en gros, aux États-Unis, un studio qui possédait, et demander, en gros, ce qu'il préférait, en gros, je la fais courte, mais c'est qu'est-ce qu'il préférait chez Lars, ou comment il trouvait leur CEO, machin. Et le patron du studio répondait que en fait, il l'a jamais rencontré, il l'a jamais rencontré ever, même au moment du rachat, il l'a jamais rencontré son patron en fait quoi. Ce qui était un peu symptomatique du fait qu'il y a eu des rachats qui se sont enchaînés sans qu'il y ait de cohérence ou de fort lien culturel.
On est d'accord. Bon, écoutez, on continuera à suivre évidemment ça, parce que comme je le dis, peut-être la chose à retenir, c'est que c'est pas fini cette histoire. Il y a trois sociétés qui continuent avec les problèmes, mais plus de focus pour pouvoir les résoudre, espérons. Et donc, on parlait de cross-média. Le troisième sujet pour lequel tu as beaucoup insisté, tu m'as même viré d'autres sujets beaucoup plus importants que j'avais sélectionnés pour imposer le tien. Mais il faut avouer que c'est quand même un phénomène en ce moment, c'est la série Fallout et au-delà de la série elle-même qui est sur Amazon Prime, Prime Video, ce que ça veut dire pour l'industrie du jeu vidéo et au-delà. Donc je te laisse peut-être nous dire pourquoi tu penses que c'est le sujet de...
J'ai vraiment choisi effectivement. Je t'ai prévenu. En fait, je vais virer tes sujets. Tu m'as dit que je devais aider. Alors je le fais. Non, blague à part. En fait, ce que je trouvais vachement intéressant, c'est qu'on est quand même bon. Ça fait des années qu'il y a cette nouvelle tendance où, en gros, tu vas peut-être me corriger. Enfin, tu vas peut-être pas aimer mon début d'analyse, mais je pense que la mode des adaptations de comics ou de super-héros. Et peut-être inquiète un peu Hollywood, et que Hollywood, depuis quelques années, a trouvé un autre levier potentiel, en tout cas de croissance, peu importe de ce qui se passe du côté des super-héros, c'est l'adaptation d'univers de jeux vidéo. On l'a vu avec The Witcher, on l'a vu avec The Last of Us, on l'a vu avec plein d'autres trucs récemment. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres tournant autour du jeu vidéo qui se font adapter soit au cinéma, soit en série télé. Un Eldorado de IP qui existe déjà et que tu peux aller chercher quand tu es à une plateforme de SVOD. Et le dernier exemple en date, c'est Fallout, qui est, je pense, encore plus intéressant que The Last of Us, dans le sens où The Last of Us avait été donc une adaptation stricto sensu du jeu en série télé, et je pense avait sans doute généré de la vente de jeux et de consoles, mais pas dans des proportions qu'on avait vraiment pu mesurer aussi fortement que pour le cas de Fallout. Dans le cas de Fallout, pour le coup, pour une fois, Microsoft a eu la bonne stratégie autour du lancement de la série, qui a été que, la série est déjà est un succès, donc ça c'est déjà une bonne étape, contrairement à la série Halo, par exemple. Ça a été un vrai, vrai succès populaire, et succès plutôt critique, même si des fois les gens étaient partagés, globalement ça a été bien reçu. Sachant que c'est une nouvelle aventure dans l'univers, et du coup ça permet aussi de pas, entre guillemets, spoiler un jeu existant, et du coup ça peut te donner envie d'aller voir plus en jouant au jeu. Et en fait Xbox a fait une campagne de promotion assez lourde, à la fois autour de la série télé et autour de ces jeux Fallout, en les mettant en promo sur tous les stores possibles. On voit aussi le côté comme ressort aussi qui est intéressant dans cette analyse, c'est le fait que c'est le moment où ça paye d'être sur toutes les plateformes. Et pas être sur Xbox et pas être inexcusabilité, c'est le moment où ça marche plutôt bien. Et en fait, au point où donc ils ont pu enregistrer plus de 1 million de nouveaux, on comprend plus de 1 million de nouveaux joueurs sur un seul jour. Ou en tout cas, il y a eu plus d'un
million de joueurs simultanés, c'est ça,
sur Fallout 76. Et uniquement Fallout 76, sachant que tous les autres jeux Fallout ont aussi eu leur moment de, un peu de hype aussi dans les ventes. On a vu Fallout 4 et tout remonter dans les chiffres de vente de différentes plateformes. Donc il y a vraiment un effet levier qui a marché entre la sortie de la série et alors que justement il n'y a pas de nouveaux jeux sur le marché. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'actualité autour de Fallout côté jeux vidéo qui a été prévu, mais Fallout 76, Fallout 4 voilà, ont un regain d'intérêt. Et je rajouterais juste avant que tu puisses peut-être donner ton analyse, je rajouterais juste le fait que j'ai vu passer par exemple un tweet de c'était le compte officiel je crois de Fallout 76 pour le coup, qui proposait un build, donc parce que c'est un jeu multijoueur, c'est un jeu où tu crées ton personnage, et il proposait un build pour essayer de se rapprocher le plus possible de l'un des personnages de la série télé. Alors j'ai pas vu la série télé, mais la Ghoul je crois, c'est que, ou en tout cas c'est le nom que les gens utilisent pour désigner le personnage. Mais donc je trouvais ça intéressant aussi comme logique de se dire ok, attends, les gens viennent de regarder la série télé. Voilà des petits tips sur comment revivre un peu la série télé dans le jeu. Je trouve que c'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées, quoi.
Alors, je précise, donc ni toi ni moi n'avons vu la série, mais clairement, ouais, elle est assez inévitable. Moi, je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Désolé, je voulais, mais... Mais elle est assez inévitable et c'est un succès absolument indéniable. Et comme tu le dis, ça touche... Bon, la série est un succès, ça fait vendre des jeux, et ça fait revenir des gens sur les jeux, ce qui est normal, mais ça va même au-delà. Les packs Magic the Gathering Fallout sont en rupture quasiment partout. Enfin, ils se vendent super, super bien. C'est le meilleur set, c'est un set commander spécifique, le set qui se vend le mieux. Les sites de mod de Fallout sont surchargés, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de modder Fallout 4, c'est le 4 hein, qui est spécifiquement, ouais, ou peut-être plusieurs. 76, qui était un petit peu un ratage complet à son lancement, maintenant connaît une grosse popularité, alors ils l'ont beaucoup amélioré. Mais c'est vraiment un bénéf tout le monde. Pour tout le monde, c'est vraiment gagnant, 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 gagnant. Tout le monde y gagne dans l'histoire. Et je crois, pour moi, tu as dit, il y a déjà eu plusieurs séries qui ont bien marché et donc ce n'est pas la première. Moi, je dirais qu'il y a quand même eu deux moments importants. C'est The Last of Us et Fallout. Parce que les deux ont été développés par des personnalités très reconnues de... l'industrie, des gens qui sont des créateurs, des auteurs de l'industrie. Elles ont été traitées avec énormément de respect et sans vouloir adapter le jeu un à un, ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué à faire pour Fallout. C'était plus le cas sur The Last of Us, mais il y a quand même eu une interprétation qui était spécifique à la série. Parce que des séries comme The Witcher, bon bah c'était un succès correct, mais soyons d'accord, c'est pas une série, c'est pas une série HBO quoi. C'est pas, je veux dire.
Alors ça a pas été. Je vais rebondir sur The Witcher, qui est un cas particulier parce que c'est à la fois déjà c'est une adaptation d'un livre et d'un jeu vidéo, même si la série surfe évidemment sur le succès du jeu vidéo. Mais ça a été un vrai, vrai gros succès populaire dans le sens où ça a vendu des bouquins et des jeux au moment où c'est sorti, ça a été un vrai succès pour Netflix. Après, je suis d'accord, parce que là où tu vas avec ça, c'est le côté que ça n'a pas, par contre, ça n'a pas vraiment été un gros succès critique, justement pour le côté, c'est contrairement à The Last of Us et contrairement à Fallout qui vraiment réunissent à la fois le succès populaire et le succès critique, on va dire quoi.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que généralement quand on pense aux adaptations de jeux vidéo, on pense plutôt à Halo, tu vois, un truc qui fait comme Halo, bon bah c'est un truc vite fait, personne n'aime vraiment... Ça, c'est peut-être vaguement correct par certains points, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un ratage. Et c'est le pire de tous les mondes, un petit peu. C'est pas intéressant pour
Arcane,
les fans.
D'ailleurs, on a oublié de mentionner Arcane.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Là, je m'en voudrais si on l'avait pas mentionné, donc merci de le faire. Mais effectivement, du coup, là, on a une sorte de passage d'étape, si tu veux, changement de paradigme, où je pense que Hollywood se dit oui. Un nouveau relais après la mode des super-héros qui clairement est passé, est en train de passer ou en tout cas est dans une vallée plutôt qu'une colline. Je pense que avec le succès de Fallout, c'est l'élément déclencheur qui va faire que tous les CEO de studios mettre à décrocher leur téléphone pour appeler. Alors, qui on peut parler ? Est-ce que... Tu vois, par exemple, le film...
Il y a un autre effet.
Oui, vas-y.
Vas-y. Non, mais il y a un autre facteur, c'est Super Mario aussi, qui a été aussi un succès l'année
dernière. Tout à fait,
alors,
oui.
Pareil,
oui,
c'est un cas un peu particulier, mais pareil, ça a été un succès. Je pense qu'il y a une pierre là-dedans aussi de, qui fait montrer à Hollywood les succès se multiplient, quoi. Donc, à un moment.
Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour moi, là, c'est le dernier. Comment dire le dernier clou dans l'idée que. Ça marche, le jeu vidéo, c'est un truc qui est mûr, et en plus, la génération des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo et qui ont un respect pour le média et pour les œuvres sont aujourd'hui les décisionnaires et surtout les créateurs qui vont les prendre en charge. Et donc, ils savent comment les adapter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu des trucs faits à la va-vite et des ratages aussi, hein, mais je pense que c'est le début de... l'ouverture des vannes, si tu veux.
Oui,
là, je pense que ça va commencer. On va y avoir droit pendant 10 ans, comme avec les films de super-héros il y a 15 ans. Quoi.
Et si on voulait tirer encore la corde encore plus loin pour aller dans ton sens sur le côté des créateurs, d'ailleurs, je trouve que ça se voit de plus en plus à quel point même les films et les séries télé qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo empruntent des idées, des éléments, des styles. Aux jeux vidéo, de mise en scène, d'action, etc. Enfin, ça se voit de plus en plus. Tu sens des fois, enfin, je trouve que ça se sent que les équipes derrière ont grandi avec soit des comics, soit avec, tu vois, avec les comics, avec les jeux vidéo, etc. Et ont cette culture, oui, les mangas et ont cette culture-là, quoi.
On est d'accord. Bon, bah écoutez, donc bah, on va en bouffer. Hein. Là, on est encore au début, donc on peut dire que ça va être cool. Vous pourrez devenir grognon et dire que ça suffit dans quoi 5-6 ans. On pourra commencer à dire oh, c'est bon, attends, ouais, adapter Yars Revenge en film quand même.
Quand il y aura l'univers Nintendo ouais, partagé avec Zelda qui rencontre Mario et machin.
Et non, mais Zelda et Mario, ça va encore. Là où ça va faire grincer des dents, c'est quand il va y avoir une série sur l'aspirateur du jeu Mario, du jeu Luigi's Mansion, tu vois, l'aspirateur à sa série pour enfants sur Disney+. Là, tu commences à dire, okay, bon, c'est bon. Écoute, merci pour ce petit topo et on va passer au jeu auquel on joue en ce moment. Et vous allez voir, il y a des trucs. Oui, pardon.
On a oublié de mentionner un truc. Du coup, je vais me permettre de te couper
vas-y.
Pour remonter le truc. Concernant Bethesda France fermé ses portes, on a appris, alors c'est Actu Gaming de mon côté qui me l'a fait remonter l'info, donc Fallout, on rappelle que c'est édité par Bethesda qui a été racheté en 2020 par Microsoft, et donc Bethesda France, bah, c'est une antenne somme toute qu'on imaginerait pouvoir faire de la promotion par exemple autour de la série Fallout, etc., et pourtant en silence radio et pour cause, puisqu'on a appris en fait qu'au cours des dernières semaines, derniers mois, bah, en fait, la branche a tout simplement été fermée et fait partie des licenciements qui avaient été annoncés en janvier par Microsoft Monde en général, et donc c'est... Alors déjà, c'est regrettable. Enfin, moi, je pense que c'est regrettable à plusieurs aspects. C'est regrettable d'abord, évidemment, pour les équipes et les personnes touchées en France. Mais c'est surtout regrettable aussi, mais c'est aussi regrettable d'un point de vue stratégique, d'après moi, pour la stratégie de Xbox qui, décidément, a une stratégie très américano-américaine. Et je me méfie un petit peu de la fermeture de ce genre de branche. Pour moi, ça va pas forcément dans le bon sens. Alors, je rappelle que Bethesda France, on parle pas de Arkane ou des studios. On parle vraiment, c'est les équipes marketing, commerciales, les équipes d'édition, qui chapotent un peu, on va dire, les campagnes marketing et la commercialisation et potentiellement la localisation des jeux. C'est le genre de choses que font une branche locale. Tu sauras mieux que moi, d'ailleurs, Patrick, pour avoir travaillé chez Blizzard France. Mais voilà, je trouve que du coup c'est un rétrécissement de la part de Xbox à un moment où Xbox devrait plus que jamais avoir besoin d'antennes locales pour réussir à percer en termes de marketing. Si PlayStation a autant de succès en France, c'est aussi parce qu'il y a eu un PlayStation France qui a su faire les bons choix et les bonnes stratégies à des moments clés, pas que vis-à-vis de la branche internationale, quoi. Donc c'est important. Je pense que c'est important aussi les antennes locales. Je ne sais pas quel est ton avis sur le.
Écoute, moi,
probablement un avis plus expert que moi.
Non, mais je suis évidemment complètement, complètement d'accord avec toi. Et Qu'est-ce que j'entends un truc? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la l'avocat du diable, il est venu nous dire que on vient de passer à peu près 45 minutes à dire mais regarde le succès incroyable de Fallout, ça a été un truc gagnant pour la série et pour les jeux et pour machin, et on apprend ensuite sans vraiment l'avoir remarqué plus tôt que en fait Bethesda France a fermé ses portes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que du coup, avoir aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit aujourd'hui, il est vraiment indispensable d'avoir des antennes locales ? Alors, encore plus peut-être qu'à un autre moment, évidemment, c'est la parole de l'avocat du diable, et je pense qu'il est toujours bénéfique d'avoir une antenne locale pour adapter ta communication à la culture et les us et, et les habitudes locales. Mais en même temps, tu fais un direct, toute la presse France, tu fais un direct aux US, toute la presse française en parle. Tu sors un jeu, tout le monde peut regarder les notes sur Metacritic et les vidéos YouTube du monde entier. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour tous les travailleurs du jeu vidéo et je suis désolé de lire la tristesse de ceux qui ont été, qui ont exprimé leur tristesse après leur avoir perdu leur travail chez Bethesda. Mais tu vois, je ne peux pas non plus m'empêcher de me faire un tout petit peu l'avocat du diable et de me dire eh « Oui, mais est-ce que c'est aussi important qu'on aimerait le penser ?»
Je comprends ton avis, enfin je comprends l'avis, je veux dire, l'avis de l'avocat du diable, j'entends qu'il y a une distinction, je rappellerai quand même le côté challenger de Xbox qui, en boîte américaine, a vraiment beaucoup de mal à comprendre des habitudes européennes et a vraiment du mal, au sens large, Microsoft, au-delà de Xbox même, des fois a du mal à localiser ses services. On voit à quel point les traductions sont à la ramasse. Mmh. Et je pense que ça leur dessert, voilà, pour le coup.
Eh bien, écoute, ton avis est noté. Si vous voulez, noter les avis des gens, vous pouvez aller sur Patreon et me dire « cet avis était complètement pété, écoute Patrick, l'avocat du diable, il nous fatigue » ou alors « vraiment, quel brillant argumentaire il a fait cet avocat du diable » ou peut-être que certaines choses, vous n'y pensiez pas, comme les présentations de développeurs slovaco-brésiliens. Et vous dites, mais une image brillante là aussi, bravo Patrick. Et donc, pour me féliciter, vous allez sur Patreon, patreon.com/rdvjeux, et vous soutenez l'émission. Vous faites comme tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, et vous décidez d'attribuer 1€, 2€ à cet épisode, à cette émission que vous appréciez. C'est très simple, patreon.com/rdvjeux. Et je vais abréger, parce que vous le savez, et puis on a quand même des jeux à traiter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Allez, on enchaîne. Les jeux auxquels on joue en ce moment. Kassim,
oui.
La déception est immense.
Oui.
On va parler d'Overwatch 2 dans un instant, mais tu n'as pas joué à Eiyuden Chronicles ? Je ne comprends pas ce qui se passe là.
écoute, j'attendais beaucoup le jeu. Et il y a un truc que je n'avais pas pressenti. Je m'étais préparé et tout. J'avais pas de jeu en cours, j'ai pas de jeu solo en cours et tout. J'étais prêt à me lancer dans Eiyuden Chronicles, qui, on le rappelle, donc, est le successeur spirituel de Suikoden, développé notamment par The Late Murayama. qui nous a quitté il y a pas longtemps et qui veut voilà réimaginer vraiment Suikoden en mode moderne, mais toujours avec ce côté 2D vu de côté, etc.
Et, non mais c'est plus que ça, c'est le jeu dont tu parles le plus après Final Fantasy XIV. C'est ton rêve, c'est ton... Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'inquiète pour ta santé, du coup. Enfin, je sais que ça va, donc ça va, mais...
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué à la bêta et que j'ai plutôt bien aimé mon expérience dans la bêta il y a quelques semaines, et que la bêta s'est interrompue, et qu'en fait, j'ai du mal, pour l'instant, à remettre le pied à l'étrier. En fait, l'erreur presque du jeu, de mon côté, a été que tu reprends la sauvegarde là où tu t'étais arrêté avec la bêta. Et du coup, en fait, j'ai du mal à reprendre, tu vois, j'ai eu une pause de un mois et en fait, j'ai un peu du mal à reprendre où j'en étais et j'ai pas eu la modification. Et il y a aussi autre chose, dont on va juste parler juste après, c'est le fait que je suis retombé deep into Overwatch 2 et qu'en fait, c'est plus rapide de lancer une game que de se replonger dans un JRPG, quoi.
Alors...
Non, mais à un moment, il faut dire les choses.
Bon, ok, bon, je comprends cet argument, je pourrais certainement, enfin, je pourrais pas dire le contraire, mais sur Eiyuden, je suis vraiment surpris, parce que...
Non, mais il est installé, d'accord. J'ai recommencé. Bon,
c'est juste une question
jouer,
de minutes, voilà, quoi, oui, ou deux jours,
Exactement. D'accord. Exactement.
D'une manière générale, il a un petit 79 sur Metacritic.
Si tu me permets de donner mon analyse, du coup, justement, de la réception. Visiblement, les gens qui n'ont jamais joué à Suikoden et les journalistes d'une manière générale, ils voient un JRPG somme toute sympathique et correct. Et tu vois, un Metacritic à 79, c'est OK.
Ah, c'est bien, c'est
vraiment,
pas mal.
C'est même bon, c'est même bien. Ouais. C'est pas un jeu de l'année, mais c'est bien. On est vraiment dans les bons jeux. C'est même un jeu passable, puisqu'il est dans le Game Pass.
Il est dans le Game Pass, Damned. Il faut que m'y intéresse aussi, d'accord.
Donc il est plutôt bien, il est sur toutes les plateformes et dans le Game Pass. Donc voilà, mais ce qui est plus inquiétant pour les gens qui suivaient ça de près, c'est le fait que les fans de Suikoden, notamment Jason Schreier, ont pas forcément été très convaincus par leur expérience du jeu. Moi, j'ai pas eu la version presse, donc j'ai pas pu en y jouer plus que ça. Mais visiblement, voilà, les gens qui ont l'expérience de Suikoden sont plutôt déçus. Donc, je pense que c'est un bon JRPG, mais qui n'est pas à la hauteur de son ancêtre. Pardon.
Ouais, d'accord. Bah, écoute, tu nous en diras plus quand tu y auras passé un petit peu plus de temps, et on aura hâte d'avoir ton avis. Clairement, c'était difficile de se comparer au premier, à Suikoden. Surtout vu à quel point il a été marqué par la nostalgie et l'ambiance de l'époque, etc.
D'accord.
Donc, bon, écoute, tu nous en diras plus quand tu y auras joué un petit peu plus. Mais du coup, je vais vous parler, moi, d'autres jeux. Mais, Kassim, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, peut-être
Non, mais je savais que tu allais me le renvoyer dans la figure.
Non, pas du tout. C'est vraiment une curiosité. Je me souviens que tu nous disais... quand je parlais, moi, de Overwatch et quand je disais, mais il est vraiment, enfin, le jeu est au meilleur qu'il a jamais été, etc. Je vais pas vous refaire le laïus. Tu nous disais, ouais, je sais pas, moi, ça marche plus sur moi, quoi. J'ai passé mon amour pour Overwatch, parce que tu as quand même beaucoup joué au jeu depuis sa sortie à l'époque, il y a très longtemps. Mais tu disais, bah, ça marche, enfin, je suis passé à autre chose. Et je constate depuis une semaine sur le Discord, notamment de la commu, que t'es un petit peu, enfin je sais pas à quel point t'es à fond, mais en tout cas tu y joues régulièrement, au point de délaisser Eiyuden Chronicles. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, dis-nous tout.
Effectivement, alors le premier point, le côté désintérêt, c'est le fait qu'ils ont tous abordé le côté que moi qui m'intéressais en premier lieu dans le jeu, enfin un des éléments forts qui m'intéressait plutôt dans le fait de continuer le jeu, c'était le fait que c'est les interactions entre les personnages, c'est le lore, c'est le vraiment j'aime bien l'univers
de
Overwatch, je trouve que c'est un univers cool. Et donc le PvE m'intéressait, et donc j'avais envie d'avoir tout ça, j'avais envie d'une série télé, j'ai envie de plein de trucs, j'ai envie des films, tu vois, des trailers et tout ça, j'adorais ça. Et donc le fait que Blizzard recule de plus en plus sur tous ces éléments-là et fasse vraiment service minimum me fait grincer des dents, et je continue de penser que du coup c'est chiant pour l'avenir de la licence et que c'est vraiment un gâchis, je trouve, pour la franchise. Après, j'ai jamais caché le fait que moi, le PVP, moi, ça marche. Et pour le coup, je fais pas partie des gens qui aimaient pas Overwatch 2, tu vois, par exemple, le passage de 5v5. Globalement, je fais confiance aux devs sur l'équilibrage. Moi, je trouve que Overwatch 1 était très bien équilibré. J'ai jamais été d'accord avec tous les Doomsayers qui gueulent à chaque méta sur tel et tel personnage qui serait trop OP ou très machin et tout. Les devs, ils font toujours le taf pour faire un équilibrage correct et t'as toujours envie de t'amuser avec tous les personnages. D'ailleurs, je main Echo, qui est littéralement le personnage, le Jack of all trade, qui peut copier n'importe quel autre personnage du jeu, parce que justement, j'aime bien jouer un peu tout. Et donc là, en l'occurrence, pour revenir à maintenant, il y a eu un nouveau personnage qui est très cool et que j'aime bien. D'ailleurs, je commence de plus en plus à aller à maîtriser et voilà, et j'aime bien refaire quelques games, surtout qu'ils ont fait pas mal d'équilibrage et pas mal de changements. Et moi, c'est la première fois que je rejoue depuis qu'ils ont pas mal changé les règles du jeu, notamment tu sais, le régène de HP, etc.
Il y a 3 mois de ça, ils ont revu vraiment de manière assez subtile et surprenante même certains éléments du jeu, comme par exemple ils ont facilité la visée, ce qui a fait grincer des dents certains qui n'ont pas vraiment compris la chose, mais ils ont augmenté le nombre de points de vie et facilité un petit peu la visée, sachant que Overwatch était un jeu extrêmement, et toujours un jeu extrêmement difficile à comprendre et à viser. C'est extrêmement rapide, les mouvements sont rapides, etc. Donc, l'avis des experts, c'est que ça ne fait pas que c'est un jeu facile, mais ils ont donc changé ces éléments-là, plus de points de vie, un petit peu de régénération pour certaines classes, pour tous les personnages, etc. Et étonnamment, ça a changé un peu le fil du jeu, de manière assez positive. Et je ne vois pas vraiment comment ces changements amènent à cette conséquence, mais le fait est que je suis obligé de constater, oui, ça a plutôt amélioré l'expérience de jeu, du gameplay, alors que déjà, je l'adorais. Et donc, pour toi, ça a refonctionné un petit peu, parce que tu dis, oui, bon, j'aimais pas trop, et là, je rejoue un peu, mais t'étais vraiment remonté, t'étais un peu genre ok bon ça y est c'est fini adieu Overwatch, et là j'ai l'impression que tu joues quand même beaucoup.
Alors ça m'arrive assez régulièrement, mais ça m'arrive, mais je pense que ça continuera de m'arriver de rejouer un mois, mais le truc c'est que du coup je dépense rien comme argent dans le jeu, donc c'est bien, je joue gratuitement, je suis content, et j'ai aucune envie de dépenser de l'argent dans le jeu, j'ai aucune envie, tu vois, de c'est ça aussi le truc qui me met, et il y a rien qui me donne envie autour du jeu, tu vois, le Battle Pass et tout, j'en ai plus rien à faire. Les personnages, je suis pas du tout leur annonce ou quoi, j'y joue quand le personnage sort, et là j'y joue en ce moment, mais je pense que dans une semaine ou deux j'arrêterai d'y jouer, quoi. Et ce sera de nouveau en pause pendant 6 mois, le temps qu'il y ait un truc intéressant qui revienne, quoi. D'accord. Et je pense pas que ce soit viable, enfin tu vois, il y a le côté joueur Kassim, il est content et là il fait ses games, il est content, mais le côté journaliste, analyste, voilà, me fait penser que c'est pas sain comme rapport au jeu, quoi, d'après moi. Mais
parce que pour le jeu, c'est financièrement compliqué. Du coup, peut-être qu'on peut théoricrafter un petit peu. Il faudrait faire quoi ? Parce que quand ils font des lootbox cosmétiques, personne n'est content. Ils font un battle pass avec des persos dedans qui sont accessibles en grindant un peu, même si on ne paye pas, mais on peut les avoir plus vite. Personne n'est content. Maintenant, c'est un Battle Pass qui est entièrement cosmétique. Tous les persos sont débloqués pour tout le monde immédiatement. Personne n'est content. Enfin, tu sembles dire que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Moi, je pense que... déjà, premièrement, moi, j'étais très content des lootbox, je le rappelle. On est les deux personnes sur Terre à être d'accord sur ça, alors s'il te plaît. Moi, je trouve que le système de lootbox d'Overwatch 1, une fois qu'ils avaient fait la refonte, qui était ultra généreuse, qui empêchait d'avoir des dupliqués, c'était génial. Et c'était super positif, quoi. Par contre, après, j'ai envie d'acheter... J'ai envie d'acheter une campagne solo, j'ai envie qu'on me propose des trucs. Enfin, moi, j'ai envie de. Mais après, je sais que c'est mon avis à moi et je comprends bien que la réalité pour Blizzard est peut-être pas la même. J'entends cet argument-là. Mais du coup, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me contente pas, moi. Après, je peux pas te dire. Je sais pas comment eux, ils peuvent trouver une solution. Après, si ça se trouve, eux, s'ils sont dans leurs frais et que ce nouveau système de Battle Pass convainc des gens qui sont peut-être plus susceptibles, plus clients de ce genre de jeu. Qui n'est pas mon cas à la base. Moi, je ne suis pas très joueur de free-to-play. Tu vois, je ne suis pas joueur de Fortnite et de Valorant et compagnie. Donc, peut-être que je ne suis juste pas le public cible et que moi, ils sont juste contents que je remplisse les serveurs et les files d'attente. Et donc, tant mieux pour eux. Et donc, peut-être que je leur conviens aussi comme joueur, tu vois. Mais voilà.
Ouais. Bon, donc, écoutez, on ne...
C'est quand même raisonnable comme avis, non ?
Non, non, si, c'est, tu peux avoir l'avis que tu veux. Moi, j'ai aussi joué, effectivement, je prends encore, bon, je ne vais pas vous refaire le topo, mais énormément de plaisir sur le jeu, et je reste émerveillé par le fait que le jeu soit... soit gratuit, quoi. C'est un jeu qui est gratuit et maintenant, on a encore moins d'opportunités de payer. Alors, du coup, j'ai acheté le Battle Pass parce qu'il me restait de l'argent premium d'avant et du coup, je l'ai dépensé pour le Battle Pass parce que j'ai plus rien d'autre pour quoi le dépenser. Il y a une nouvelle type de monnaie qui te permet d'avoir un skin mythique par saison et tu peux payer plus et c'est très très cher si tu veux en acheter plus évidemment, mais bon voilà, ça reste des cosmétiques mais je reste émerveillé par à quel point chaque perso est fun à jouer quoi. Tu parlais du nouveau perso Venture, le feeling est incroyable quoi. Vraiment tous les persos ont un gameplay différent, fun, jouissif dans la manière dont le kit est construit et dont les différentes capacités s'enchaînent et fonctionnent ensemble. Bon là en ce moment il y a un événement Mirror Watch où les gentils sont les méchants et les méchants sont les gentils, c'est rigolo. Mais bon, voilà, le jeu reste super solide. Je ne te cache pas, quand même assez content malgré tout que après tes critiques de la stratégie d'Overwatch sur le PvE et des conséquences que ça avait pour toi sur le PvP, tu es quand même, il est réussi à t'attraper un petit peu, tu vois, et tu dis bah oui, quand même le jeu il reste bon quoi. Donc ça me satisfait un peu, j'avoue.
Et tu as envie que je dise que tu avais raison, c'est ça le... Tu peux.
Non, mais tu l'as dit de fait. donc, tu n'as pas besoin d'explicitement le dire. Mais, au-delà de la blague.
Non, je vais entendre le plot.
Non, mais au-delà de la blague, je te pose honnêtement la question. Je comprends la frustration des gens sur l'histoire du PVE, etc. Et moi qui suis plus sur le jeu et qui dis mais si, il est bon, le jeu. Sur ce point, je pense que tu me rejoins. Le jeu en lui-même,
Moi, j'ai toujours bataillé pour dire que le jeu a toujours été bon et que même Overwatch 2, le PvP, il est très bon, il n'y a pas de souci sur ça.
Oui, d'accord. Bon, bah moi, j'ai joué à quoi ? J'ai continué un petit peu à jouer à Mario Wonder avec mon fils. Je vais passer rapidement là-dessus parce que vous connaissez, mais j'ai continué à jouer et petit à petit, on se rapproche du château de Bowser. Et on a même fait le premier niveau du château de Bowser. Alors, le château de Bowser, c'est le dernier monde. Il lui fait un petit peu peur à mon fils, donc il hésite, hein, il y va lentement.
Loulou, j'ai pas fini.
J'ai pas fini, mon ange. Ok. Et donc, il y va lentement.
Va dans la chambre, mon ange.
Bon, ça s'éternise un peu. il est encore sur l'iPad. Quand on parle du loup, oui, je parlais de Mario Wonder, donc forcément, ça l'a intéressé. Et donc, on continue à s'approcher. Il a un petit peu peur du château, comme je disais, mais bon, il prend son courage à deux mains et puis on finira par le faire à un moment. Mais au-delà de ça, j'ai réentendu parler d'un jeu dont nous parlait... C'était qui nous en parlait ? Thomas, peut-être, il y a deux semaines. Il nous parlait de Mini Shoot Adventures. Est-ce que tu vois ce que c'est, Mini Shoot Adventures ?
Oui, j'ai des amis qui sont tombés dedans. Je dois saluer que c'est Origami, je crois, qui en a parlé.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai découvert le jeu, mais après, je n'ai pas pu y jouer. Mais vas-y, je t'en
prie. Eh bien, écoute, Mini Shoot Adventures... C'est un jeu dont nous parlait donc Thomas il y a quelques jours et dont beaucoup de gens parlent effectivement. Je sais plus, c'est Jeff Grubb, je crois, qui a remis un petit coup dessus. Et du coup, j'ai fini par l'acheter et je l'ai testé un petit peu ce matin avec le petit, justement. Et franchement, c'est exactement ce que ça dit sur la boîte et c'est aussi cool que tu imagines que ça sera. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Mini Shoot Adventure, c'est un mélange complètement improbable, une hybridation entre Zelda et un Twin Stick Shooter. Et à la fois, tu te dis, mais j'y aurais jamais pensé un truc comme ça. Et en même temps, à l'instant où on te le dit, tu te dis, mais oui, mais totalement, pourquoi pas ? Ça peut tout à fait marcher. Et bien, je peux vous dire que ça marche mais du feu de Dieu. C'est super fun, ça fonctionne parfaitement bien et c'est vraiment Zelda. Mais Zelda à un point où les graphismes ressemblent à Zelda, il y a même des petites virgules sonores qui sont complètement copiées de Zelda, donc ils portent leur inspiration sur leurs manches, comme on dit en anglais. Et tu es complètement à l'aise par ça, mais par contre, tu joues un petit vaisseau qui se déplace avec un stick et qui tire avec l'autre. Et l'idée d'avoir de la progression Zelda-esque, Metroidvania-esque, avec les capacités du vaisseau, c'est complètement cohérent. C'est-à-dire que tu vas te déplacer dans une zone, tu vas avoir un petit truc qui te fait tirer un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, et tu as envie d'être plus fort et d'avoir un vaisseau qui va aller un petit peu plus vite, tirer ses petites boulettes un petit peu plus vite, avoir plus de balles qui partent en même temps, etc. Et il y a toutes les histoires de capacités spéciales. T'as un boost, t'as un saut, t'as des trucs comme ça. Et donc, ça s'enchaîne de manière totalement logique. Et le jeu fonctionne, mais à fond. Je pense qu'il y a une chose là. Depuis qu'on parle dans cette émission, je pense qu'il y a un truc, c'est retourner jouer à Mini Shoot Adventures. Tu peux pas t'arrêter. Comme dans les bons Zelda, dans les bons Metroidvania, tu commences et tu dis « Ah oui, il y a un petit truc ensuite qui vient là. T'as un petit arbre de talent pour améliorer tes trucs. T'as toujours un petit truc en plus qui te pousse. » Ça fonctionne à fond. Donc, je répète simplement ce que disait Thomas la dernière fois. C'est excellent et je le recommande très chaleureusement, d'autant plus qu'il coûte presque rien. Enfin, presque rien. Il coûte 20 euros, 15 euros, entre 15 et 20 euros. Et j'ajouterais juste un autre petit truc. Il y a des options pour faciliter le tir, parce que c'est quand même bien bullet hellien et ça peut être difficile à appréhender quand on n'est pas... moi, je ne suis pas un gros joueur de jeu de tir, hein, donc je peux tout à fait... Je ne sais pas que j'étais un expert du shoot'em up, ni du bullet hell, et je m'en sors très bien pour le moment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulettes à l'écran, et contrôler le vaisseau et les tirs en même temps, ça peut être un petit peu compliqué, et il y a des options pour faciliter ça. C'est-à-dire qu'il va viser automatiquement les ennemis, ce genre de choses, donc on a juste à se préoccuper de ne pas se faire toucher, ce genre de choses. Donc c'est, je crois, en tout cas au début, ça me semble relativement accessible, et le fun est 100% présent. Franchement, m'aurais demandé ça et je continue à être amusé par la mode des indés, mais ces deux petits développeurs, ils sont français d'ailleurs, c'est ce que disait Thomas, je crois, de Soul Game, deux petits développeurs qui ont fait un petit jeu indé comme ça, Bullet Hell Twin Stick Zelda. Eh ben, je pense que je vais en reparler en fin d'année. J'ai été recapturé par Overwatch, même avec les Final Fantasy, enfin tous ces gros jeux. Sauf que, eh ben là, non. Là, je pense que je m'en souviendrai encore en fin d'année, on en reparlera. Donc, je vous le recommande très chaleureusement. Ça s'appelle Mini Shoot Adventures.
Mais du coup, c'est un jeu indé qui n'est pas slovaque et qui n'adapte pas la vie d'un hamster de compagnie en jeu vidéo. Donc ça,
il y a
des jeux indés qui sont cool.
Ils peuvent quand ils veulent. C'est possible. Mais non, enfin, évidemment, il y a plein de jeux indés que j'aime bien, hein, vous en doutez, j'en parle régulièrement. Mais voilà, celui-là, il fonctionne. Allez, troisième partie de l'émission. Ghost of Tsushima arrive sur PC. Et Ghost of Tsushima sur PC, il a une particularité particulière, c'est qu'il intègre une interface PlayStation. Il y a une interface, en fait, qui est le PSN sur le jeu, qui du coup amène, pour les joueurs PC, la connexion à leur compte PlayStation. C'est du coup cross-progression, c'est même pas du cross-progression, c'est le même compte. Et c'est hyper intéressant parce que ça légitimise complètement les jeux PlayStation First Party sur PC. Ça peut même mener à d'autres choses à terme. Peut-être encore plus d'intégration ou une stratégie encore plus sérieuse de PlayStation sur PC. Peut-être qu'ils intégreront cet overlay, cette interface supplémentaire dans d'autres jeux qui sont sortis sur PC aussi. Mais pour moi, c'est un gros morceau, vraiment. Je suis curieux de savoir si ça te paraît aussi important que pour moi.
Oui, tout à fait. C'est une étape vachement importante. C'est ce qu'a fait Microsoft il y a une dizaine d'années quand ils ont commencé à justement faire la même stratégie. Pour eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Il y a le côté du jeu qui sort en même temps sur PC et sur console. Il n'y a pas l'exclusivité temporaire sur console. Mais peu importe, l'idée est la même. C'est qu'ils ont fait une interface Xbox sur PC pour connecter tes amis, tes succès et compagnie, pour avoir ta progression qui est la même des deux côtés. Xbox a aussi fait le côté de l'achat qui est le même des deux côtés. Mais c'est
ouais, une ça, étape Sony,
importante. Oui, non, ça, Sony, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils arrivent à vendre leur jeu, donc ils n'ont pas besoin. Mais du coup, PlayStation, pour le coup, c'est une étape super importante parce que c'est un truc qui manquait, pour le coup, je trouve, quand tu avais... Justement, quand tu avais un jeu, par exemple, à travers le PlayStation Plus ou un jeu... voilà, que tu avais déjà commencé sur une autre console ou quoi, t'as envie de retrouver tes succès, tes listes d'amis, c'est des trucs assez naturels. Et c'est bizarre dans l'écosystème que ce n'était pas le cas avant. Et donc c'est important que ça arrive, et c'est très bien que ça arrive, et ça confirme effectivement leur stratégie.
On en reparlera certainement à un moment. À mon avis, ça va pas aussi loin que Microsoft, hein, mais c'est clairement quelque chose d'important qui pérennise leur stratégie sur PC. On a aussi des rumeurs sur la PlayStation 5 Pro et le fait que pour avoir le label amélioré pour PS5 Pro, elle devrait sortir en fin d'année, hein, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. En gros, ça veut dire que ça tourne soit dans une meilleure résolution, soit avec un meilleur framerate, soit avec plus de ray tracing, soit plusieurs des susnommés, mais pas forcément tout. Optimiser PS5 Pro, ça ne voudra pas forcément dire 4K 60 FPS avec Ray Tracing. Il y aura encore, peut-être, des choix à faire en fonction des jeux, en fonction de la manière dont ils sont patchés. Bon, moi, je pense que ça ne change rien au fait que les gens qui veulent l'acheter l'achèteront. À la limite, ça tourne mieux. C'est l'argument nécessaire et suffisant pour l'achat, pour ceux qui veulent l'acheter. Ceux qui n'en veulent pas, de toute façon, ne l'achèteront pas. Donc, je crois que ça ne change pas grand-chose, mais c'est intéressant à noter tout de même. C'est des rumeurs.
Voilà, on a dépassé le stade de la rumeur. Les développeurs tiers sont vraiment ont les mains sur l'équipe de développement, donc a priori c'est quand même bien amorcé pour que ça se valide, pour que ça se vérifie. Même si effectivement on n'est pas au stade, ça n'a pas été officialisé. La PS5 Pro, je pense qu'elle va être vendue relativement chère. En fait, moi ce que je dis c'est qu'elle va être vendue trop chère. Mais tu vois le trop cher entre guillemets, c'est-à-dire que les gens vont trouver ça trop cher. Je pense.
Ouais, ça va pas forcément faire baisser le prix de la PS5 normale,
non,
mais ça va être juste la PlayStation
à 650
euros. 650, oui, c'est ça. Ouais. Moi, je vois bien la normale passer à 450 et la Pro à 650. Je vois bien une petite baisse de prix quand même pour bouger un petit peu le marché, tu vois, pour dire aux gens non, mais vous attendiez, voilà, maintenant vous pouvez, tu vois.
Alors, ce que je peux imaginer, c'est la PS5 qui repasse à 500. Comme à son prix de lancement. Et du coup, la PS5 Pro qui arrive à 600, et du coup, t'as le côté « Ah, bah, c'est que 50 euros de plus que le prix qu'elle était juste avant. »
Peut-être.
Ouais, stratégiquement, ça peut être...
Hades 2 devrait bientôt arriver. Ils ont fait un test technique et l'Early Access devrait arriver d'ici un mois, peut-être, quelque chose comme ça, même si on n'a pas de date précise. Du coup, j'ai relancé Hades 1. C'est un jeu toujours aussi incroyable. J'ai pas envie de recommencer vraiment à jouer à Hades 1, mais du coup, moi, j'attends le 2 avec impatience et il devrait pas trop tarder. Je suis curieux de voir comment ils vont... Est-ce qu'ils vont réussir à le rendre... Parce que si tu refais Hades 1, c'est pas la peine. Moi, je l'ai relancé, j'ai pas forcément envie d'y rejouer. Et je me demande s'ils vont réussir à le rendre suffisamment différent et intéressant. Il y a un système de mana, il y a plein de choses qui changent pour me donner envie d'y repasser 20, 30, 40, 50 heures. Il y a un nouvel acteur du cloud gaming, PlayRuo, dont tu as pu entendre parler. C'est quoi PlayRuo ?
Alors, PlayRuo, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça veut littéralement dire se jeter dans le jeu. la traduction de Playrio. Et c'est
ça veut quoi,
par pardon de... C'est-à-dire se jeter dans le jeu, se ruer dans le jeu, se Playrio. Voilà. Okay. Et c'est une solution de cloud gaming développée par trois Français, des anciens de Shadow pour l'essentiel, et parmi eux, notamment Jean-Baptiste Kempf, qui est un des fondateurs de VLC. Et ça tombe bien puisque ça utilise des technos proches ou enfin ça se base sur des technos liés à VLC. Ça fait du streaming, donc du cloud gaming, du streaming de jeux vidéo. C'est basé sur des serveurs Amazon ou Google. Et l'idée, c'est que pour nous, les joueurs, c'est de vraiment pouvoir faire du click-to-play sur navigateur, vraiment de façon très très simple, et ça marche pour le coup. Tu cliques sur une bannière, tu cliques sur un lien, et en fait, tu es plongé dans le jeu en quelques secondes. Vraiment, pendant le temps de chargement, ils te mettent un trailer. En général, tu as le temps de voir 3 secondes du trailer avant que le jeu se lance. Parce que ça marche vraiment bien pour le coup. Et donc, c'est une solution.
Ça marche vraiment bien dans le test pour les journalistes avant que les serveurs soient surchargés.
Exactement. Après, c'est comme ils se basent sur le cloud d'Amazon et de Google, a priori, c'est scalable, il n'y a pas vraiment trop. Ouais. C'est pas comme Shadow qui se basait sur leur propre infrastructure.
Ouais, et puis la techno de VLC, elle est folle, quoi. C'est vraiment techniquement, le développement est assez notable, quoi. Je veux dire, cet aspect, au niveau technique, ils sont carrés, quoi.
Donc, je me fais pas de bill sur le côté technique pour le coup, justement. Je me fais plus de bill sur le côté commercial parce qu'en fait, du coup, donc c'est pas vous n'allez pas vous abonner à Playrio, vous n'allez pas y accéder même en tant que client, en tant que joueur. C'est vraiment un service B2B entre guillemets, donc c'est vendu aux développeurs et aux éditeurs pour les pousser à mieux faire découvrir les jeux. On parlait du fait qu'il y a trop de jeux et notamment trop de jeux indé. Et donc, l'idée c'est vous allez avoir une bannière pour tel jeu indé ou une pub sur les réseaux sociaux pour tel jeu indé, vous allez pouvoir cliquer et directement y accéder. Donc, ça va être vendu aux indés qui vont eux vous proposer des démos gratuites en gros. Ou on peut imaginer pendant un Steam Fest ou quoi, ça évite d'acheter un jeu, de se faire rembourser, ça évite de télécharger une démo et de l'installer et d'y jouer, ça permet de jouer beaucoup plus rapidement, ce qui est important aussi pour faire découvrir des jeux. Après, au-delà de ça, c'est à eux de convaincre des développeurs, de convaincre des éditeurs, et on sait que c'est pas forcément simple. Et puis il faut voir si leur modèle économique tient la route, est-ce qu'ils arrivent à vraiment, quand tu cliques et quand tu joues, est-ce que tu arrives vraiment à transformer en achat de jeu, est-ce que tu arrives vraiment à...
Parce qu'après, tu vas l'acheter sur Steam, c'est vraiment juste pour la démo là, pour tester le jeu plus rapidement, pour transformer le call to action, faciliter le call to action pour les développeurs.
Ouais. Exactement. Après, tu vas l'acheter sur Steam. Et donc, le modèle économique, c'est que c'est les devs ou les éditeurs qui achètent des heures de cloud, en gros, à Playrio. Quoi. Et c'est une solution clé en main. Il n'y a pas besoin de modifier trop le jeu. C'est très facile à mettre en place. C'est des jeux PC. Ça marche très, très bien. Mais voilà, rien n'est... Ça vient de se lancer, vous le mentionnez.
Très bien. Donc, Playrio à suivre. Quoi d'autre? Meta a baissé le prix du Quest 2. Il coûte désormais 200$. C'est le cas peut-être en France. Ils ont baissé le prix aussi, je crois.
J'ai pas suivi, mais ça ne m'étonnerait pas. En général, ils adaptent le prix partout.
Ouais. Et puis, ils ont ouvert Horizon OS, qui est leur OS nouvellement renommé de VR. Donc, on risque de voir débarquer plein de casques de réalité virtuelle. Est-ce que 2025 sera l'année de la VR?
Non, mais oui, ça veut dire qu'en gros, les fabricants vont pouvoir créer Asus, par exemple, va pouvoir sortir un casque de VR qui utilise le même OS que Meta. Et donc, Meta se place comme... Il faut savoir, donc il y a le Vision Pro qui est arrivé chez Apple. Et donc, il y a une place à prendre pour celui qui est en face d'Apple. On sait que c'était Windows sur le PC, on sait que c'était Android sur le smartphone. Il y a une place à prendre pour celui qui sera en face d'Apple sur la VR, si tenter que le marché décolle. Android va se lancer bientôt, probablement en mai, va annoncer sa propre solution avec Samsung de réalité mixte, OS réalité mixte. Et donc Meta coupe l'herbe sous le pied en faisant le bon move, je pense, en faisant un move stratégique très intelligent, de effectivement proposer leur OS et de pas s'enfermer dans un truc propriétaire d'augmenter leur écosystème. Quoi.
Et clairement, ils n'ont pas réussi. À prendre le marché qu'ils voulaient avec le... Excusez-moi. Ils jouent avec des câbles derrière, je ne sais pas ce qui se passe. ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient avec Meta et à conquérir avec le Quest le marché de la VR qui peine à décoller. Là, ils facilitent les choses et clairement, il y a une place d'Android de la VR à prendre, comme tout le monde l'a mentionné. Donc oui, ça pourrait donner, on va dire, un petit coup de boost à la VR. Maintenant, il ne faut pas attendre de miracle non plus, quoi.
Non.
Quoi d'autre? Bon, il y a des émulateurs sur, iOS. C'est rigolo parce que Apple l'a autorisé désormais. Fortnite continue à étendre sa roadmap. Et il y a, enfin, sa roadmap continue à étendre les différents types de jeux qu'ils vont proposer à l'intérieur de Fortnite. Il y a plein de petites choses en plus. Atlus a donné la date de Metaphor ReFantasio. Ça sera le 11 octobre. Bon, il y a des gens qui l'attendent avec impatience. C'est un peu le pré-Persona. Je me dis qu'ils ne vont pas parler de Persona avant d'avoir sorti Metaphor ReFantasio, sans doute, parce que... Mais c'est sur Switch, donc c'est moche, quoi. C'est le problème. Et puis,
c'est pas
voilà.
Sur Switch, hein, c'est sur toutes les consoles. Hein.
Ah, c'est sur toutes les consoles, donc il y aura des versions, des versions pas moches.
Oui.
Ah, super.
C'est même, ça a été annoncé chez Xbox, tu sais, ça fait partie des seuls jeux japonais qu'ils arrivent à avoir.
Mais pourquoi j'avais l'impression qu'il était tellement moche? Ah oui, c'est parce qu'il est moche, en fait. Ok, pardon. Non, je suis en train de voir les images.
Je ne peux pas vous. Mais oh là là.
Oh, c'est moche. Non, tu trouves pas ça moche?
Oh non, alors pour le coup, non, ça me fait pas cet effet-là. Sur ce jeu-là, je serais d'accord sur un SMT, par exemple, je suis totalement d'accord avec toi, mais sur là, pour le coup, moi, ça m'a pas fait l'effet. Mais je pense que l'interface graphique qui est très très stylisée aide à maquiller le côté peut-être technique un peu léger, quoi.
Bah, c'est comme tous les jeux Atlus, c'est un petit peu de la technologie PS3, quoi. Et
oui.
Non, mais on est d'accord. Je veux dire, c'est un jeu, il serait sur PS3, il serait pas. Et ça m'empêche pas d'adorer les jeux, les personnages.
Ouais, bien sûr,
mais oui, bon, c'est peut-être.
Je pense que le style graphique animé, plus interface graphique et tout, aide à maquiller ça et à faire que moi, ça me choque pas visuellement. Oui. Mais je suis d'accord avec toi.
Et donc voilà, je voulais aussi mentionner que ça va faire hurler les fans de Manor Lords, mais Manor Lords a eu 3 millions de wishlists. Il a été wishlisté 3 millions de fois. Et du coup, je me rends compte à quel point il y a tellement de jeux et de fans de jeux que je ne connais pas. C'est quoi? C'est la suite de Manor Lords? Je ne sais même pas ce que c'est, Manor Lords. Tu vois, c'est un jeu dont je n'ai jamais entendu parler. Je suis sûr que je l'ai vu dans une présentation ici ou là. D'ailleurs, je sais que je l'ai vu, mais 3 millions de personnes qui l'ont mis sur leur wishlist, c'est quand même pas rien. Je ne sais pas. M'émerveille un petit peu qu'on ait encore, tu vois, malgré le fait de...
Ouais,
il y a
sûr.
Tellement telle richesse dans le jeu vidéo. C'est encore une preuve que... Il y a plein de choses et plein.
Ouais, ça, je suis très content. Bah, tu sais, c'est comme les. Bah, c'est comme. Il y a eu. Je pense que ça va me surprendre, mais il y a comme un Power Rush Simulator qui a fêté, je sais plus, son X millions de joueurs ou de ventes. Mais tout ça pour dire. Il y a les Hotel Simulator et tout ça. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a plein de jeux, entre guillemets, de niche, mais qui pourtant attirent des milliers. C'est pas des niches, parce qu'ils attirent des millions de joueurs. Mais c'est juste que c'est pas les Call of Duty et autres. Mais je trouve ça super cool que justement ces jeux-là aient leur. Et leur public cible, et que ce ne soit pas des jeux au rabais ou quoi. Et Manor Lords, c'est un banished like slash jeu de stratégie Total War. Enfin, il mélange des éléments de plusieurs types, plusieurs genres. Et effectivement, il commence très très fort son early access. Il a plutôt bien convaincu. Ils ont fait une très bonne stratégie aussi auprès des streamers. Il y a eu beaucoup de streams. Donc, ça fait partie toujours de ces jeux qui marchent sur Twitch et donc marchent après commercialement ou en wishlist, quoi.
En tout cas, dans la chatroom, Nodus a l'air particulièrement excité par l'arrivée de Manor Lords. Donc, il a le label Nodus. Mais tu vois, souvent, je vois passer les news genre tel jeu a vendu 1 million, tel jeu a vendu 5 millions, machin. Et je les mets dans les news parce que je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a beaucoup de jeux qui se vendent bien quand on dit « Oh, personne n'arrive à faire son trou, c'est la merde partout, c'est la merde tout le temps. » Mais je crois que je vais arrêter parce qu'on comprend maintenant, tu vois. Il y a des jeux qui se vendent toutes les semaines. J'ai deux ou trois news de « Ah, tel jeu s'est vendu à 1 million, tel jeu a atteint 5 millions. » Et pas des gros triple A. Pas des jeux services tu vois, des double A, des jeux indés qui fonctionnent très bien pour telle ou telle raison. Mais je vais arrêter.
Je fais continuer l'émission un petit peu plus. Mais tu as mentionné Mini Shoot Adventures qui a été développé par deux personnes. Manor Lords, c'est développé par une seule personne, il me semble. Et tu parlais de en fait, si je reviens sur Mini Shoot Adventures, c'est parce que tu parlais des jeux dont on allait parler en fin d'année. Et il y a un jeu dont on va parler en fin d'année, même si toi, il t'a pas convaincu, c'est Balatro. Et pareil, c'était une success story, c'est développé par une seule personne. Et en fait, oui, on les enchaîne, les success stories, donc faut pas... Enfin, voilà, pour aller dans ton sens, quoi.
Très bien. J'aime bien quand les gens vont dans mon sens, c'est bien. Mais au moins, bon, les choses sont dites et claires d'une manière peut-être... Vraiment, j'ai l'impression que quand on écoute l'ambiance générale de la manière dont on parle du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, pas que en France, mais peut-être particulièrement en France, j'ai l'impression qu'on se fait une idée un petit peu colorée ou biaisée de la manière dont fonctionne l'industrie. Donc c'est pour ça que j'insiste tellement sur ces points-là, et je suis heureux qu'au moins vous saurez cet aspect aussi, vous comprendrez cet aspect aussi. Et sur ce point, je voulais quand même mentionner Canard PC qui change de provider de financement pour ses vidéos. En fait, ils étaient sur Twitch et ils sont pas contents de ce qui s'est passé avec Twitch ces derniers mois et ces dernières années. Donc, ils passent sur Ulule. Ils ont un système d'abonnement à Ulule spécifiquement pour la partie vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par Canard PC et que vous voulez les soutenir pour la vidéo, vous pouvez aller voir. Oui, pardon, je dis une bêtise.
Ils continuent Twitch et YouTube. C'est le côté financement. Ils sont pas contents des revenus des abonnements et tout ça. Donc, pour les aider, les soutenir dans leur démarche et soutenir le média, ils préfèrent que vous passiez par Ulule, qui a maintenant une formule d'abonnement à la Patreon.
Oui, tout à fait. Ils continuent à faire leurs vidéos sur Twitch et sur YouTube, mais
plutôt que de s'abonner en Prime ou de s'abonner en payant,
plutôt,
vaut mieux aller sur Ulule.
Voilà. Et ce qui est d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, on en parlait dans le Discord, je ne peux pas m'empêcher quand même de noter avec amusement ce que disent nos amis de Canard PC, notamment l'éditorial de Yvan Lefou. Il en met quand même une bonne petite couche sur Twitch qui rémunère pas bien, qui baisse la rémunération, qui baisse ses effectifs, et Dan Clancy qui explique que Twitch n'est pas rentable depuis des années. Twitch n'est pas rentable. Et bon, ça crache un petit peu son venin quand même, ce que je peux comprendre. Hein, et puis, il y a Amazon derrière. Mais ils vont pas arrêter d'utiliser Twitch. Et je dis pas, genre, ils devraient prendre une position morale et dire « Ah, on ne veut pas... » Non, c'est pas ça. C'est qu'ils utilisent Twitch en encourageant les gens à aller payer autrement leur travail. Mais ils utilisent le service de Twitch qu'ils ne payent pas en aucune façon. Alors, je ne sais pas s'ils ont activé les pubs, peut-être qu'ils ont les pubs, mais tu vois, il y a quand même une petite déconnexion, je trouve, entre le fait de dire « le service n'est pas rentable, vous vous foutez bien de notre gueule », mais tu veux quand même utiliser le service sans le payer. Je ne suis pas surpris que Twitch ne soit pas rentable, tu vois. Et ce n'est pas un mini-créateur Canard PC, ce n'est pas qu'ils sont à... Alors, c'est pas un énorme... ils ont quelques centaines de viewers en régulier, donc c'est pas un des plus gros créateurs, mais c'est pas non plus un créateur qui fédère 3 viewers. Donc, je pense que ça coûte quand même de l'argent à Twitch de servir, de streamer le contenu de Canard PC. Donc, voilà, il y a un petit truc comme ça qui me paraissait... Ils concluent leur article avec une petite image qui dit... Qui est commenté, nous sommes très contents d'avoir une chaîne Twitch, mais on ne peut pas faire tout ça gratuitement. Alors oui, tout à fait, je pense que Twitch ne peut pas faire ça gratuitement non plus. Vous voyez, c'est un peu... Bon oui, il y a Amazon derrière, mais c'est pas une raison pour que Twitch, ils perdent de l'argent avec Twitch tout le temps. Donc voilà, je voulais noter ça, ça m'avait amusé, on va dire. Maintenant, c'est cool qu'il y ait Ulule derrière, et j'espère vraiment, enfin, vous savez, l'amitié que je porte à Canard PC et aux héritiers de cette presse papier et aux darons de la presse papier. Et donc, évidemment, on leur souhaite tout le succès qu'on peut. Il y aura un article dans la newsletter, le lien vers cet article-là, et aussi un article du directeur de Apple Arcade, qui explique où ils en sont avec Apple Arcade, et qui dit à quel point ils tiennent encore à Apple Arcade. Alors, ils se sont recentrés un peu peut-être sur les jeux familiaux, safe pour les parents un peu joueurs, mais il y a aussi des jeux indés, comme par exemple What the Car, qu'on a découvert au AAA Initiative, alors qu'il était sur Apple Arcade depuis un an. Mais donc, il y a un petit peu de tout. Ces deux articles seront dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner très facilement en allant sur notepatrick.com ou tout simplement dans les notes de l'émission. Il y a même des archives de la newsletter qui sont disponibles. On essaiera de mettre les notes, Fanny, si tu es encore là. Mettre le lien vers les archives de la newsletter. Il faudra que je les intègre aux notes normales. Merci, Kassim. C'était un délicieux moment passé en ta compagnie, comme toujours. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut en avoir plus quand tu n'es pas dans le rendez-vous jeu?
Déjà, merci pour l'invitation, toujours. C'est toujours un plaisir de venir et de discuter de jeux vidéo. Et on peut évidemment me retrouver toujours sur frandroid.com, où du coup, j'écris, j'ai notamment écrit sur Embracer et sur d'autres sujets, et où vous allez pouvoir retrouver... on a aussi une chaîne Twitch, je me permets, du coup, Frandroid Live, et on va notamment avoir une émission cet après-midi, en fin d'après-midi, avec JB Kempf, justement, qu'on va recevoir pour parler de Playrio, mais aussi parler de tech en général. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est pas forcément un exercice que je maîtrise parfaitement, voilà. Mais je pense que ça va bien se passer. Mais voilà, si vous voulez, si vous écoutez en direct et que vous voulez un peu plus de ces sujets-là, n'hésitez pas à vous connecter ce soir. Ce sera à partir de 17h, voilà.
Parfait. Est-ce que vous avez activé les abonnements sur Twitch?
On a activé les abonnements sur Twitch, mais ce n'est pas et pour le coup, on n'a pas de campagne Ulule ni quoi que ce soit. D'accord. Et c'est pas notre modèle de revenu, on va dire. On est content quand les gens s'abonnent, hein, ça nous fait de l'argent, mais c'est pas. On encourage pas, tu vois, on n'est pas dans l'incitation ou quoi à s'abonner ou ce genre de truc.
D'accord.
Pour l'instant, en tout cas.
Donc l'interview Playruo tout à l'heure sur Twitch, et on mettra du coup le lien vers ton article sur Embracer dans la newsletter également, pour détailler tout ça. Pour ma part, note Patrick un petit peu poire tout. Vous pouvez aussi retrouver la newsletter dans les notes de l'émission, le groupe WhatsApp dans les notes de l'émission, le Discord dans les notes de l'émission, tout est dans les notes de l'émission, ou alors sur notepatrick.com. Et bien sûr, le plus important de tout ça, c'est, vous le savez, Patreon, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Moi, j'ai la gorge qui est en train de lâcher et j'ai le petit qui est en train de ne plus en pouvoir. Donc, on va aller prendre le goûter. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Bisous, bisous. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.